Chapitre 4. La grotte et le bois. Chose étrange, Thérèse Lemaire, quand elle pensait à Marc Maujon, et c'était tout le jour, ne se posait point la question qu'il avait arrêtée 100 fois lorsque, dans le logis rose et dans le cottage gris, elle considérait ce Pierre Coombe énigmatique et fuyant. Est-ce que je l'aime ? Aimer, est-ce bien cela ? Elle se surprenait à des enfantillages. Elle gardait dans son porte-monnaie un petit morceau de papier sur lequel il avait écrit son nom pour essayer une plume. La forme simple, nette, sans ornement, des majuscules, la tendrissait presque comme un portrait eût pu le faire. Elle mit plus d'un baiser sur ce nom. Elle osa même penser « Ce serait un jour mon nom, si je voulais, si j'avais le courage. » 15 jours s'étaient écoulés depuis la soirée dans le grand salon Louis-Philippe. Une seconde soirée plus nombreuse où toutes les Julien, même les plus jeunes, portaient des bonnets de Catherinette, avait passé pour Thérèse comme une sorte de rêve trouble dans le bruit et les rires. Réfugiée au fond d'une embrasure, elle sentait, à chaque coup de sonnette, son cœur s'arrêter, le lustre devenait obscur, ses mains étaient moites. Marc Maujon n'entrait pas. Elle essaya d'aller plus loin pour se mêler à un groupe, ses pieds s'enfonçaient dans le parquet mou. Toutes les bévues, elle les avait faites ce jour-là et la veille. Elle avait déplu à son chef, c'était certain, et comment alors s'aventurer à lui dire « C'est demain le fameux vendredi de quinzaine, y viendrez-vous » Elle ne l'avait pas dit, il avait donc pu s'imaginer qu'elle ne souhaitait point l'y voir. Mais Beaupacel aurait probablement invité son cousin. Il se montra très tard, l'air assez peu gracieux. Gligli eut un trait d'esprit qui ne le dérida pas. « Vous êtes comme la lettre S qui vient juste avant le T. H-E, proclama-t-elle. » Marc Maujon parla à six Catherinettes avant d'aborder Thérèse, qui portait ce soir-là une robe de foulard bleu de l'été précédent. « Je vois que vous cessez de jouer les veuves, » fit-il avec quelque brusquerie. C'est que, la veille, un incident les avait mis de mauvaise humeur et presque brouillés pour une demi-journée. Thérèse, afin d'orner un peu le recoin sombre et frais qu'elle appelait son bureau, avait acheté et mis sur le rebord de la fenêtre un pot de fougères et un pot de scolopendre. Des fleurs auraient demandé plus de lumière. Elle fit remarquer ses verdures à Marc Maujon, qui entrait un papier à la main. « J'ai envie d'arranger une petite rocaille sur cette fenêtre. 3 cailloux, 1 coquille. Mon bureau serait une grotte. La grotte de Calypso, » ajouta-t-elle par une réminiscence assez sotte et absolument hors de propos. « Ça ne plaque pas, » fit son chef d'un ton assez maussade. « Calypso, si je ne me trompe, était veuve ou divorcée de l'ingénieux Ulysse. » Il y eut un silence de 5 secondes. Thérèse se précipita comme un nageur se jette dans une eau dont il ignore la profondeur. « Ça plaque peut-être, » fit-elle d'une voix un peu étranglée. « Qui vous dit que je ne suis pas veuve ou divorcée ?» Marc Maujon la regarda comme ahuri, puis il partit d'un de ces immenses éclats de rire qu'il avait rendu célèbre dans son entourage. Ce rire déconcertant de simplicité, moqueur sans malice, destructeur de tous les faux-semblants. « Mon Dieu, » fit-il ensuite en haussant les épaules, « vous n'avez pas besoin de ça pour vous rendre intéressante. » Beaupacel, en cette seconde, aurait soufflé à Thérèse. « Dites-lui, vous me trouvez donc intéressante comme je suis ?»« Non, non, impossible !» Le rire de Marc Maujon coupait court aux petites manœuvres. Thérèse tourna le dos comme boudeuse. Elle espérait qu'il ferait, dans un moment ou le lendemain, une allusion à Calypso pour remettre la situation sur un pied de plaisanterie. Au contraire, il s'enfonça dans des écritures et n'adressa la parole à sa subordonnée que pour critiquer sa description de la cathédrale de Chartres, faite pourtant d'après les documents les meilleurs. Puis, ce soir, sans s'inquiéter d'être entendu, il avait ce mot de blessante ironie « Vous avez donc fini de jouer les veuves ?» Ce fut comme une pointe aiguë qui perça l'âme de Thérèse. Elle reconnut en 7 minutes que l'opinion bonne ou mauvaise de Marc Maujon lui importait plus que tout au monde. Elle crut qu'elle pourrait lui ouvrir entièrement le triste trésor et puis s'en remettre à sa loyauté, même, qui sait, à son penchant pour elle. Le lendemain de la soirée, Thérèse arriva boulevard Saint-Germain plus tard qu'à l'ordinaire. Avec à peine un signe de tête, elle se coulait vers sa grotte quand Marc Maujean l'arrêta. « Vous boudez, vous ne pardonnez pas au bourru que je suis ?»«
Il n'y a rien à pardonner, » fit-elle d'une voix incertaine.
« Bon, alors, merci. Avant d'aller commencer votre besogne, regardez ceci. C'est un bois. »
« C'est une image, » dit Thérèse en considérant la feuille qu'il lui mettait dans les mains.
« Des enfants qui tressent une guirlande. »
Un bois, une gravure sur bois, destinée à illustrer un récit qui n'existe pas encore.
Vous connaissez peut-être les histoires et images qu'édite la Maison de la Croix. J'en suis le secrétaire, aussi bien que des cathédrales. Ce périodique juvénile est fort embêtant. Mais quoi, c'est une partie de la dot de Mademoiselle Léa Dubureau. D'ailleurs, ce revenu est permanent, tandis que les cathédrales passeront, pour moi comme pour vous.
« Je remarque, poursuivit-il, que vous travaillez plus lentement qu'au début. De Londres, vous m'avez envoyé 2 cathédrales par mois, ensuite 3 cathédrales en 5 semaines. À Paris, qu'avez-vous fait? Voyons, à peine la cathédrale de Chartres. »
« Vous devriez me féliciter, prononça Thérèse. J'ai bâclé les premiers guides avec une désinvolture. Peu à peu, je me fais une idée de mon travail, de ce qui devrait être. » Au British Museum, j'avais des tas de bouquins où je picotais un peu au hasard. Ici, pour Chartres, vous m'avez rassemblé toute une iconographie et à peu près tout, je pense, ce qui a été écrit sur Chartres. J'y ai pataugé pendant 15 jours, je commence seulement à me débrouiller. Mais vous me parliez de ce bois?
C'est connexe. Après les cathédrales, que ferez-vous?
Du train dont vous y allez, vous en aurez encore pour 8-9 mois. Suis-je indiscret?
Ah, bien au contraire, je n'ai personne que vous pour me conseiller. À Londres, j'avais une amie tellement plus expérimentée que moi.
Quand on vous donne des conseils, vous les suivez? Demanda-t-il avec son sourire qui était ironique, mais qui exprimait une sollicitude.
Bien sûr, s'écria-t-elle avec conviction.
Je vous conseillerais donc d'amorcer déjà de nouveaux rapports avec la Maison de la Croix. Ça vous ennuierait-il prodigieusement d'écrire pour Histoires et Images? Ce bois, que vous considérez fixement au lieu de me regarder, ce qui serait plus poli, ce bois vous inspirerait-il? Pour illustrer notre périodique à peu de frais, nous obtenons des revues anglaises ou allemandes, des gravures qui ont déjà servi. Mais nous ne traduisons pas l'histoire qui s'y rapporte, nous en commandons une toute neuve à des collaboratrices d'occasion. C'est payé de 30 à 50 francs, suivant le nombre de pages. Je ne vous cacherai pas qu'on s'arrache ces bois. Voulez-vous prendre celui-ci?
Je veux bien essayer. Je ne sais pas du tout si j'ai la veine qu'il faut, répondit-elle sans grand entrain.
Après ça, reprit son chef, il y aurait toujours des traductions de livres enfantins dont les Anglais sont plus riches que les Français. La Maison de la Croix publie des traductions ou adaptations faites par des dames qui ne savent bien ni l'anglais ni le français. Elles rendent l'anglais « sensible » par « sensible » au lieu de « sensé ». Elles ignorent que le titre « sœur » doit être suivi d'un prénom. Enfin, des pataphrases tout à fait choquants. Traduisent-elles taille par taille et casque par casque, comme Miss Sophie qui fut mon élève à Londres, fit Thérèse en riant.
« Je connais assez bien Londres, » dit Marc Maujean. « Dans quel quartier viviez-vous ? »
« Oh, dans divers quartiers. J'ai déménagé souvent. »
« Vous n'êtes pas descriptive. Il faudra bien tout de même que vous me racontiez, une fois ou l'autre, quelque chose de votre vie à Londres. »
Ils se regardèrent. Leurs yeux échangèrent une question, une réponse. Ceux de Marc disaient « Si vous avez du chagrin, vous pourriez me le confier. » Les yeux de Thérèse répondaient
« Je le voudrais bien, oui, je le ferai. »
Elle restait immobile, incertaine, près du pupitre de Marc, au bout des longs comptoirs couverts de livres et de brochures. La porte de la rue s'ouvrit, un client entra dans le magasin. Marc Maujean fronça le sourcil, bien obligé de recevoir cet intrus. Thérèse se glissa vers sa grotte, très émue du pas qu'ils avaient fait l'un vers l'autre.
Elle alla fermer la fenêtre contre l'air de la cour que chargeaient les odeurs de cuisine de tous les étages. Elle arrosa ses fougères avec la carafe machinalement. Si, par un effort inouï, elle s'arrachait une confession, par quel mot la commencerait-elle ? Prenant un crayon, elle s'assit devant la petite table, essaya d'écrire une phrase. La flûte de l'enchanteur, comment en rendrait-elle l'écho ? Croirait-on à ses hésitations comme à sa résistance, à sa détresse ? Le saut dans le noir, qui l'avait obligée à le faire ? Comment avait-elle pu, stupidement, se confier à un simulacre de mariage ? Mais était-elle bien certaine que ce fût un simulacre ? Les deux cornes impitoyables du dilemme toujours le même la lacéraient, la transperçaient. « Si je ne suis pas mariée, n'est-ce pas chose horrible d'avouer que j'ai eu tout de même un époux ? Si je suis mariée, et si Pierre Coombe surgissait, ne suis-je pas liée à lui inexorablement ?» Elle osa aller plus loin, se parlant à elle-même. « J'écouterai mon cœur, j'attirerai d'une volonté bien arrêtée, le jeune homme distingué mais indécis, je le rendrai heureux peut-être. » Dans le mystère, resté sans solution, serions-nous heureux ? Si je dis tout, Marc Maujon reculera. Si je ne dis rien, je le trompe sur moi-même. Et puis, mon Dieu, à quelle découverte affreuse je l'exposerai, si tout à coup... Elle s'arrêta, glacée, devant la vision d'un Pierre Coombe reparaissant dans sa vie et même revendiquant des droits, apportant des preuves. Il avait écrit... Des impossibilités nous séparent. Il n'avait pas écrit pour toujours. 2 ans d'abandon était-ce assez pour qu'un mariage légal fût annulé ? Et si le mariage n'était pas légal, comment Thérèse le saurait-elle jamais ?